Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
De Samuel, chapitre 6, c'est au début de la royauté de David qui avait bien sûr constaté que du temps de Saül, la vie spirituelle avait été vraiment négligée. Il a donc eu à cœur de ramener l'Arche de l'Alliance qui représentait, à l'époque, la présence de Dieu. Bien sûr qu'aujourd'hui, le culte n'a rien à voir avec le culte de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes, nous, les pierres vivantes, nous sommes, nous, le temple personnellement du Saint-Esprit. Et les choses ne sont pas tout à fait similaires. Mais il faut bien comprendre la portée spirituelle de ce chapitre. De Samuel, chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Akjo, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gass. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gass, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Nous aurons l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Dans Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 6, le Seigneur parle et dit donc ceci. Ésaïe 55, verset 6e. Et je me permets de vous demander de prendre avec beaucoup de sérieux ces deux versets que nous allons lire. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Nous y reviendrons. Dans le prophète Amos, au chapitre 5 et au verset 4, le message de Dieu n'a pas beaucoup changé. Les problèmes étant souvent les mêmes, la solution est également pareille. Amos, chapitre 5, verset 4. Amos, chapitre 5, il y a là, bien sûr, un enseignement supplémentaire, à savoir que on ne cherche pas n'importe comment Dieu. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, « Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra une ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amen. Dans le prophète Jérémie, au chapitre 10 et au verset 20, il y a des paroles très sévères. Elles concernent peut-être pas les chrétiens, mais elles concernent les leaders de l'Église, du peuple de Dieu. Jérémie chapitre 10, versets 20 et 21. Au travers de ces versets, vous réaliserez pourquoi l'Église aujourd'hui en général est dans un piteux état. Jérémie chapitre 10, verset 20. Ma tente est détruite, tous mes cordages sont rompus, mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente, qui relève mes pavillons. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Amen. Les versets, les textes que nous venons de lire nous prouvent à tous une chose. C'est que Dieu veut que nous le cherchions. Dieu veut que nous le cherchions parce que Dieu veut que nous obtenions sa grâce. Mardi soir, il nous a été apporté cet enseignement d'Hébreux 4, 16, à savoir que Dieu veut que nous nous approchions avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir. La volonté de Dieu est toujours la même. C'est de faire grâce, c'est de sauver le pécheur, c'est d'édifier l'Église, c'est de ramener le rétrograde, c'est de choisir et de trouver des hommes, des femmes qui pourront devenir des ouvriers pour le travail dans l'œuvre de Dieu. C'est une réalité. Dieu veut que nous obtenions sa grâce. Si nous devions résumer tous les enseignements sur la prière, c'est clair, c'est que Dieu veut nous exaucer. Il désire que nous le cherchions parce que le seul moyen pour l'Église d'entrer dans les œuvres qu'il a préparées à l'avance, c'est de nous approcher de lui. Mais voilà, nous allons voir ce matin que nous ne devons pas chercher Dieu n'importe comment. Nous avons certainement déjà entendu beaucoup de choses sur ce sujet-là. Mais, mes frères et sœurs, si cette prédication devrait s'adresser à quelqu'un qui n'arrive pas à obtenir ce que l'on obtient lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est-à-dire la grâce, la miséricorde, le secours, la consolation, puisque quand même David est formel, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si je manque de ces choses, c'est-à-dire de bénédictions, en tous les cas spirituelles, il est certain que je ne cherche peut-être pas Dieu comme il le faudrait. Et peut-être, je le répète, même si cette prédication ne s'adressait qu'à une personne, je vous avoue que je serais très heureux de la porter, car la volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons véritablement des enfants de Dieu qui dépendent de leur Père céleste. Et si nous, nous méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera de bonnes choses à ceux qui le demande. N'oubliez pas, Jésus l'a dit par Paul aux Romains, si Dieu nous a donné son Fils, mais à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Alors ceux qui, pour une raison qui va peut-être apparaître dans cette prédication, n'obtiennent pas cette grâce et cette miséricorde et ce secours qui peut être opportun, c'est-à-dire qui viendra en son temps, écoutez bien cette prédication. Dieu désire que nous le cherchions, mais Dieu ne veut pas que nous le cherchions pour rester des chercheurs. Des gens qui ne font que s'approcher d'une manière un petit peu légère, c'est-à-dire des gens qui ne trouveraient jamais. Il est certain que cet état d'esprit de recherche, d'approche, doit rester. David le disait, « Mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » C'est-à-dire que dans son cœur, il y avait tout le temps le désir de continuer à le rencontrer, à faire des progrès. Mais le drame, il est qu'aujourd'hui, si quelqu'un cherche Dieu de n'importe quelle manière, eh bien, il n'entrera pas dans ces promesses que Dieu a préparées. C'est très, très sérieux. Si vous avez lu l'évangile de Matthieu, vous avez certainement été choqué, même par les reproches que Jésus peut faire aux pasteurs de l'époque. Il leur dit, mais malheur à vous. Malheureux, ça veut dire. Parce que vous fermez aux hommes le royaume de Dieu et vous les empêchez d'y entrer. Ça serait catastrophique si ce matin, il y avait une personne dans ce lieu qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'a pas encore obtenu le pardon des péchés, et qui ne puisse pas, par l'enseignement du culte en général, entrer dans le salut. Et il se pourrait qu'il y ait plusieurs personnes ce matin qui en sont là. Vous n'avez peut-être pas encore fait cette démarche très profonde. Vous vous êtes approché de Dieu que pour obtenir certaines bénédictions. Ce n'est pas bon. Jésus a été très sévère parce qu'il fallait qu'il le soit. Parce que quand Dieu est sévère, c'est une preuve d'amour. Moi, je suis persuadé que la sévérité de Dieu n'est qu'une preuve profonde de son amour infini. Et c'est les parents qui sont négligents, qui sont irresponsables, qui ne corrigeront pas un enfant, qui laisseront un enfant s'en aller n'importe comment sans éducation. C'est un père irresponsable, un père qui dit, voilà, si tu fais ceci, je te punirai. Et que quand il le fait, il ne le punit pas. Ça paraît être très, très cool, ça paraît être très laxiste, très moderne. C'est de la folie. Lorsque Dieu est sévère, c'est qu'il nous aime. Et Dieu veut que même ces pharisiens puissent entrer dans le royaume. Dieu aime tous les pharisiens de notre pays. Vous le croyez? Dieu les aime. C'est la raison pour laquelle, à combien plus forte raison, il cherche une église dans laquelle des hommes et des femmes de toutes conditions pourront rentrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes malheureux, dit le Seigneur Jésus, parce que vous ne faites pas rentrer les hommes dans le royaume. Vous pourrez le vérifier chez vous dans Matthieu chapitre 23, verset 13. Ne pas être des chercheurs continuels, des gens qui sont superstitieux, superficiels, ceux qui... Ça m'est souvent arrivé de voir une... Il y avait une dame qui venait il y a quelques années, elle ne vient plus. Elle venait pour la Sainte-Seine. Vous voyez, bon, ne la jugeons pas. Ne la jugeons pas. Elle venait pour la Sainte-Seine et elle me disait, moi, je viens pour la communion. Parce qu'en prenant le pain et le vin, je retrouve la communion avec Dieu. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire que c'est pas ça la recherche de Dieu. Vous comprenez bien que ça, c'est de la superstition. Ce n'est pas parce que je prends le pain et le vin à chaque dimanche que je retrouve la communion avec Dieu. Et je pourrais multiplier les exemples. Mais le problème, c'est qu'avant de jeter la pierre à cette femme, il faut quand même que nous aussi, nous réalisions que nous ne devons pas venir à l'église que pour essayer, espérer, retrouver la communion avec le Seigneur. Je vous répète cette question, est-ce que vous croyez que Dieu veut sauver des âmes? Est-ce que vous croyez que Dieu veut bénir l'Église et bénir notre génération? Vous allez voir au travers de ce partage que Dieu ne bénit pas n'importe comment. Que d'églises, mes frères et sœurs, ont chuté. Que de pasteurs, de leaders, d'assemblées, toutes dénominations confondues, ont chuté parce qu'on a par exemple prêché l'évangile, mais pas l'évangile de la croix, on a prêché l'évangile de la prospérité. Monsieur Olé m'explique que bien souvent, en Afrique en particulier, puisqu'il est investi dans la mission en Afrique, il m'expliquait qu'il y a énormément d'assemblées, d'églises, même pentecôtistes, où le seul message pour essayer de gagner du monde, c'est l'évangile de la prospérité, tu donnes et tu recevras davantage. C'est lamentable. Quand on donne de tout son cœur. Il y a un jeune qui est là ce matin dans l'église, qui a été dans une église dernièrement, il a entendu le pasteur dire, vous allez sortir vos billets et je ne veux pas voir de billets de 10 euros. Non mais tenez-vous bien, c'est quelque chose de dramatique. Vous fermez aux hommes le royaume de Dieu. Mais c'est grave, si je vous racontais tous les échos que j'ai de situations qui se passent, aujourd'hui ça ne date pas de 15 ans, ça date de quelques semaines. Un jeune encore qui était dans une église, parce qu'il y a beaucoup de gens de passage, avec les étudiants qui passent, ils viennent une semaine, etc. Un jeune me disait dernièrement, j'étais dans une église, et le pasteur, il a dit, voilà, vous allez sortir les billets que vous allez donner. Vous allez les montrer aux autres, pour voir, pour montrer à Dieu. Moi, j'ai lu dans la Bible que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et les gens le font. Et lui, bien sûr, connaissant quand même la doctrine biblique, est sorti de cette église. Nous sommes dans un temps d'apostasie. Ce temps est très grave. Nous avons la grâce de Dieu, comme le disait Monsieur de Dieu dans l'introduction à la Sainte-Seine, c'est vrai que nous bénissons Dieu dans l'Assemblée, il y a la paix. Mais moi, quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église de Sainte-Anne, je pense au corps de Christ dans ce pays. Et je suis persuadé que nous sommes là, dans un monde profondément pervers, bien sûr, mais dans une Église qui se laisse manger par la mondanité. Et lorsque Jésus dira, justement dans le texte auquel je faisais allusion tout à l'heure, « Mais quel est le père qui donnerait une pierre à son fils ?» Mais dites-moi, lorsque dans une Église responsable, lorsque d'une chaire l'on enseigne des choses qui sont tout à fait anti-bibliques, n'est-ce pas des choses qui sont semblables à des pierres, puisque la pierre c'est l'image de la dureté, de la religion, du fanatisme, de tout ce qui est dur, le légalisme, etc., etc., etc. Et les gens meurent, et moi quand je lis, tous leurs troupeaux se dispersent, je vous avoue que ça me fait réfléchir à mon ministère. Vraiment, croyez-moi. Amos dira, en son temps, par rapport à une situation d'apostasie également, cherchez l'Éternel, mais ne cherchez pas à Bethel. Si vous connaissez l'histoire biblique, vous savez ce qui s'est passé à Bethel avec le patriarche Jacob. Quelle histoire extraordinaire qui nous montre cette expérience qui représente pour chaque chrétien le fait de comprendre la communion avec Dieu, plus que Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Mais si on projette ce texte, si on le projette pour nous, ne cherchez pas à Bethel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr que la maison de Dieu, l'église, un lieu, peut devenir un lieu de superstition. Et ces lieux, si vous lisez le contexte, et on ne va pas le voir ça ce matin, étaient des lieux qui étaient devenus des lieux d'idolâtrie. Des lieux d'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on faisait un pèlerinage dans ces lieux, et on adorait presque le lieu, parce que là, cet endroit, une expérience avait été vécue. Pardon. Merci Seigneur pour toutes les expériences que l'on fait dans tel ou tel endroit. Mais nous ne cherchons pas Dieu en imitant l'expérience des autres. C'est toujours une erreur grave d'imposer aux autres même, ou de mimer l'expérience des autres. Il n'y a rien de pire quand quelqu'un, par exemple, a cherché la délivrance, je pense à cela, par exemple, quelqu'un esclave du tabac, ça peut arriver. La personne pourra vous dire, écoute-moi, tu sais comment j'ai été délivré? Pendant 3 jours, j'ai jeûné et Dieu m'a délivré. Et Dieu va te délivrer. Écoutez, ça, c'est pas du tout spirituel. Si, dans votre cœur, vous voulez la victoire, de toute façon, moi, je pense que Dieu vous délivrera. Et qu'à genoux, que le Seigneur vous donnera une conviction qui sera votre conviction. Il n'y a rien de pire pour infantiliser une église que de leur imposer ce qu'ils doivent faire. Le Seigneur est formel que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est très sérieux la responsabilité. Hier nous avons eu une bonne réunion avec les frères qui sont susceptibles dans l'avenir de nous aider dans le relais des responsables de l'église. Et je suis profondément convaincu que chacun doit être soi-même en cherchant la face de Dieu et non pas en cherchant à imiter ce que les autres ont pu vivre. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cet enseignement que le Seigneur dit par le prophète Amos. Ne cherchez pas à Bethel, ne cherchez pas à Beersheba, Beersheba, c'est le puits du serment, là où Dieu avait fait avec Abraham une expérience extraordinaire. Et tous ces lieux, bien sûr, du temps du prophète Amos, étaient devenus des lieux d'idolâtrie. L'apôtre Paul dira, c'est exactement la même chose, mais je m'étonne, que vous passiez si promptement à un autre évangile. L'apôtre Paul dira ça aux Galates. Vous savez que les Galates, ça vient de la Galatie, et les Galaties, c'est les Gaulois. Les Gaulois exportés en Asie mineure. Les Français. Il y aurait... Mais lisez l'Épître aux Galates, vous verrez que la culture, ça existe. C'est incroyable comment les gens sont capables de changer d'avis. C'est incroyable comment les gens sont prêts à courir à droite, à courir à gauche. Le Seigneur dit, ce commandement que je te prescris, il n'est pas dans le ciel, il n'est pas de l'autre côté de la mer, il n'est pas ici ou il n'est pas là, il est dans ton cœur, parce que Dieu regarde au cœur. Et je peux vous dire que vous qui me regardez, je peux vous dire que Dieu regarde surtout en ce moment votre cœur. Et voir comment vous réagissez à ces paroles, mes frères et sœurs, cherchez l'Éternel. Vous qui n'êtes pas encore sauvés, vous qui, si vous deviez mourir ce soir, partiriez en enfer, je vous le dis avec beaucoup d'amour, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Et ne vous amusez pas avec votre vie éternelle. Amusez-vous, si vous voulez, avec une année d'études. Il y a des gens, pendant une année, ils font des études, ils ne savent pas trop s'ils vont s'orienter vers tel CAPES, ou vers ceci, ou vers cela. Écoutez, si vous voulez vous amuser avec une année de votre vie au niveau professionnel, faites-le. Si vous avez les bourses, faites-le. Mais écoutez-moi, ne le faites pas avec votre âme. Ne vous tolérez pas quelques mois de sursis par rapport à votre éternité. C'est un jeu profondément dangereux. La parole de Dieu est sérieuse. Dieu nous aime trop pour nous laisser dans des évangiles qui ne sont pas l'évangile. Dieu nous aime trop pour que nous vivions d'illusions comme les chrétiens de la Odyssée qui s'illusionnaient par leur expérience, par leur don. Peut-être par leur richesse, qu'ils considéraient comme quelque chose de profondément spirituel. Tant mieux si Dieu vous a donné des dons, tant mieux si Dieu nous a accordé certaines faveurs, etc., etc. Mais le critère de la spiritualité, c'est pas ce que Dieu nous a accordé. Le critère de la spiritualité, c'est d'être bouillant pour lui. Mes frères et sœurs, mes amis, vous qui peut-être êtes encore dans un état de tiédeur, de froideur spirituelle, mais qui êtes ici et qui êtes là avec beaucoup de sérieux malgré tout, soyez soucieux d'être l'homme, la femme que Dieu veut que vous soyez. Ne cherchez pas des méthodes. Il n'y a pas de méthode. Et c'est vrai qu'on peut se tromper et que nous nous sommes tous trompés. Et c'est vrai que quelqu'un peut venir pour chercher une guérison, que chercher un peu, quelqu'un peut venir par intérêt. Ce n'est pas du tout malsain, mais c'est quand même une erreur. On ne doit pas chercher la bénédiction, on ne doit pas chercher un intérêt personnel. La Bible dit que toutes ces choses nous seront données par-dessus tout si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu. Mais chercher d'abord le royaume de Dieu, ce n'est pas forcément faire à la lettre, d'une manière légaliste, ce qu'un pasteur peut enseigner par exemple d'une estrade. Et c'est vrai que je pense que c'est très sain d'une estrade de dire aux gens qui découvrent l'évangile, eh bien, ça serait formidable si la première demi-heure, la première heure de votre journée, vous pouviez la consacrer à Dieu pour chercher d'abord le royaume de Dieu. Mais dites-moi, est-ce que parce que je donne la première heure du jour à Dieu, à la lecture de la Bible, à un moment de prière, est-ce que forcément, je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice? Est-ce que vous comprenez? C'est pas vrai. Vous comprenez? C'est pas parce que je donne la première heure de... Normalement, ça devrait. Si je suis dans un bon état d'esprit, et je le fais parce que j'ai besoin de ce moment de communion pour être enseigné, enfin pour me rafraîchir, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas parce que j'adore Dieu à l'église, et Seigneur, je t'adore de tout mon cœur. C'est pas pour ça que je suis un adorateur. Il n'y a que Dieu qui voit clair. Est-ce que vous comprenez? Parce que je peux avoir élevé ma voix, parce que je tiens à le faire, bien sûr, si je le fais de tout mon cœur, ça a de la valeur, mais si je le fais parce qu'il me faut le faire, imaginons, je le fais parce que je suis le pasteur et je veux que les gens voient que j'adore dans l'église. Non. Eh bien, si je fais ça, ça n'a aucune valeur. Je ne suis pas un adorateur. Je suis plus influencé par ce que les autres pensent que par ce que Dieu pense. Et tout ça, c'est sérieux. Et ça ressort de l'enseignement de tous ces textes dans la Bible, j'en ai pris trois, où nous devons chercher Dieu d'une manière très, très sérieuse. Lorsque nous ne cherchons pas Dieu comme il le faut, eh bien, il s'avère que nous nous retrouvons dans cette expérience que David a pu faire. David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui est choisi lui-même par Dieu. Selon son cœur, pas selon ses capacités intellectuelles, pas ses capacités militaires, pas sa connaissance dans la stratégie politique, etc. Un homme qui est choisi selon le cœur de Dieu. C'est extraordinaire. Et Dieu ne dit pas « je choisis un homme qui a un bon cœur ». Il dit « je choisis un homme selon mon cœur ». C'est extraordinaire. Que Dieu nous parle quelque part de son cœur, son propre cœur. Et David qui obtient, après des années d'épreuves, malgré la promesse et la prophétie qu'il a reçue, ce qui nous montre que même si nous recevons une parole de Dieu, une promesse, une prophétie, un plan particulier de la part du Seigneur, eh bien il se peut que des années s'écoulent en attendant l'accomplissement. Et c'est vrai que la Bible dit que tes prophéties s'accompliront fidèlement. Les années ont passé, lorsque David obtient enfin la royauté, eh bien son premier souci, c'est de ramener l'arche de l'Alliance. Et il ne va pas faire dans la dentelle, puisqu'il va, on l'a lu ce matin, je le lisais tout à l'heure encore, il va mobiliser 30 000 hommes pour porter une arche que 4 hommes ou 6 hommes peuvent porter. Il va donc s'appliquer à faire quelque chose qu'il a à cœur. Et il l'a vraiment à cœur. Vous avez vu avec moi. Si vous connaissez bien l'histoire de David, la façon dont il a composé ses cantiques, la façon dont il a évolué dans son ministère, vous voyez que c'est un homme qui avait à cœur les choses de Dieu, et que quand c'était les choses de Dieu, eh bien ça devait être fait au sérieux. Donc il va ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem, pour retrouver donc le culte et l'adoration, et il va mettre toute une horde de musiciens, tellement il est excité à la joie d'obéir à Dieu. Et vous avez vu qu'ils vont utiliser des bœufs, un char, Et tout ça, ça semble coller quand vous lisez l'histoire pour la première fois, et à un moment donné, compte tenu que le terrain est escarpé, les bœufs avancent, le char s'incline un peu trop, et voilà que l'arche va tomber, et Ouza, cet homme choisi par Dieu pour accompagner l'arche, a le réflexe que nous aurions certainement tous eu. Vous l'auriez eu ou vous seriez parti en Gouin, hein? Je pense qu'il y a des gens qui ne l'auraient pas fait. Chacun a ses réflexes. Mais le réflexe de Ouza a été, oh, l'arche ne va pas tomber. Et il va, avec beaucoup de cœur, dans un moment d'excitation, imaginez ces 30 000 hommes qui marchent vers Jérusalem, David qui est enthousiasmé, il est en train d'obéir à Dieu, il fait la chose qui est la plus importante pour lui, ramener si vous voulez, l'adoration à Jérusalem. Comme pour nous d'ailleurs, qu'est-ce que nous voulons? C'est la gloire de Dieu dans l'Église. Qu'est-ce que vous voulez dans l'Église? Qu'est-ce que vous voulez? La gloire de Dieu. Et voilà qu'un drame se produit. Ouza va mourir frappé par Dieu. C'est quelque chose qui a profondément blessé et irrité le cœur de David, qui n'a rien compris, qui s'est mis en colère, quoique, vous voyez que même on peut être selon le cœur de Dieu, et dans des moments où on ne comprend pas, avoir une certaine irritation. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elle reste l'irritation. Et voilà que tout tombe à l'eau, alors que tout est fait pour obéir à Dieu. Mais ce que vous avez sans doute aperçu en lisant les textes de 1 Samuel, c'est que David a fait à la méthode des Philistins, qui, eux, transportaient l'arche avec des chars et des bœufs. Et ça vaut la peine quand même, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc on a lu dans 2 Samuel au chapitre 6, dans 1 Samuel au chapitre 6, on voit comment l'arche était transportée par les Philistins, le temps où elle est restée, donc à l'étranger. 1 Samuel chapitre 6. Vous voyez, au verset 7, on voit un conseil qui a été proposé pour porter l'arche. 1 Samuel chapitre 6, verset 7. Donc c'est un conseil. Regardez bien, c'est quelque chose qui a été écrit pour nous enseigner des choses très profondes pour nous aujourd'hui. 1 Samuel 6, verset 7, dont le conseil qui est donné. Maintenant, faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Amen. Voilà le conseil qui a été donné. Alors c'est un conseil qu'a certainement imiter David. Mais voilà, d'où venait-il ce conseil? Au verset 2, d'où venait-il? Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en ce lieu. Alors là, mes frères et sœurs, vous comprenez pourquoi Ouza, en plus, mais réfléchissons, c'est très sérieux cette histoire. Ouza, je cherchais dans le dictionnaire cette semaine, Ouza, ça veut dire force. Il représente la force de l'Église, que nous avons utilisée, nous les pasteurs, nous les responsables, que nous avons utilisée pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Que nous avons utilisée, que vous n'avez jamais entendu, je ne comprends pas. Pourquoi ce gars qui servait Dieu, spirituellement, il a chuté? Il soutenait l'œuvre de Dieu, il soutenait dans telle activité, il était à fond dans tel truc. Vous n'avez jamais entendu ça? J'aurais aimé que personne n'ait entendu ça. Mais nous avons tous une série trop longue d'exemples, de personnes qui étaient comme Ouza, heureux d'être là à côté de l'œuvre de Dieu, de ramener l'œuvre de Dieu dans l'Église, et qui sont morts. Et qui sont morts à cause d'hommes qui auraient dû être selon le cœur de Dieu, et que parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu, ils ont utilisé des méthodes qui ont été désapprouvées de Dieu. Je vous ai raconté une fois quelque chose, mais qui m'a profondément énervé. C'était en Polynésie, vous savez que là-bas ça a été vraiment, vraiment très difficile pour moi, et un jour, une jeune fille de l'église me propose de faire un chant en polynésien. Alors je lui dis, écoutez, mais je vais préparer un chant, voilà. Bon, c'est quoi? Bon, c'est des paroles qui glorifient Dieu. Bon, puis écoutez, faites-le. 5 minutes après, elles arrivent à 5 ou 6, dans des tenues des plus sensuelles. Et elles se sont là, dandinées,
comme des gens qui dans des boîtes dansent le slow pareil. Et je me suis permis de demander à un des frères qui se renseigne, il a été au syndicat d'initiative, et il leur a demandé à quoi correspondent les appariements, ces fameuses danses. Eh bien, les appariements, c'est des danses en l'honneur des morts. Alors, je prends un exemple qui n'est pas à Toulouse. Mais je vais vous dire, il y a des centaines et des milliers de Ouzas qui sont spirituellement morts. Des gens qui certainement avaient le désir de voir l'arche de l'Alliance, entre guillemets, revenir dans le peuple. Et si, mais soyons sérieux, si c'est arrivé à un homme comme David, qui l'a fait de tout son cœur, et qui là pendant 3 mois a été profondément meurtri à cause de ce qui est arrivé, mais comment est-ce possible? Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une génération où comme le monde, la mentalité du monde entre dans l'église, ce qui est important dans le monde, c'est le résultat. Ce qui est important, c'est le résultat. Toi, pasteur, combien t'as eu de baptême cette année? Et toi? Moi, je ne pose pas cette question, je trouve que c'est bête en plus. Moi, je préfère demander à un pasteur s'il y a la grâce de Dieu dans son église, c'est en Corse. Mes frères, sœurs, il faut que vous compreniez. Nous sommes dans une génération qui est obsédée par le résultat. Il faut du bénéfice. Et cette histoire, elle nous prouve, et Dieu l'a voulu, béni soit son nom dans la Bible, pour que nous comprenions qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas le résultat qui compte. Là, c'est la preuve, parce que moi, j'en ai entendu. Des collègues, des frères, des jeunes, qui m'ont dit ce qu'il faut, c'est du résultat. Qu'importe les moyens qu'on utilise, il faut gagner des âmes. Il faut gagner des âmes, voyez, ça paraît très passionné, ça paraît très spirituel. Mais moi, je vous dis, le rêve est de la part du Seigneur. Que ce n'est pas le résultat qui compte, on en a la preuve dans la Bible. Ce qui compte, c'est la pensée de Dieu. Et David, imaginez-vous cet homme qui a été... Écoutez quand même, c'est quand on perd quelqu'un, vous avez déjà, on a déjà perdu des gens. Quand il y a des gens qui rétrogradent, ça ne fait pas rigoler dans l'église. Enfin, je sais pas vous. Mais les explications, elles sont là. Et à la place de peut-être, nous les pasteurs, à la place peut-être de critiquer les gens qui ont rétrogradé, nous devrions nous interroger sur les méthodes que nous avons utilisées pour porter l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le résultat qui compte. Que nous fassions aucun baptême en 2004 ou que nous en faisions 150, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est que Dieu nous assiste. C'est que Dieu nous approuve. Et David, pendant 3 mois, n'a pas continué à s'irriter. Parce qu'il y a des gens qui utilisent certains versets de la Bible pour justifier leur continuelle irritation. Mais David, je suis certain, il a dû supplier Dieu. Il a dû se mettre à genoux. Et pourquoi? Et comme il aimait la loi, il a dû chercher dans le livre de l'Exode, il a dû chercher dans le livre de Lévitique. Et enfin, il a découvert qu'il y avait des détails que Dieu avait communiqué à Moïse, pour expliquer comment l'arche de l'Alliance devait être transportée. Alors c'est clair que quand on lit ça, on se dit, il y avait des anneaux sur l'arche, de chaque côté, il y avait des barres. Mais aujourd'hui, dans la projection de l'Église, mais on s'en fiche. Qui s'intéresse à des petits détails, à des petits anneaux, à des petites barres? L'œuvre de Dieu, moi je vais te dire comment il faut faire. Moi j'ai été dans le commerce, et moi j'ai été dans la publicité. Et moi j'ai fait ceci, il faut faire cela. Moi j'entends des fois ça. Il faut faire des super affiches en quadrichromie. Et là, on va mettre plein les yeux aux gens, mes frères et sœurs. Mais bien sûr que je fais un peu d'humour, c'est peut-être pas très intelligent. Mais c'est pour vous dire que c'est pas la méthode de Dieu. La méthode de Dieu, c'est de chercher le Seigneur. Vous qui êtes chrétien, c'est de chercher Dieu dans le livre des actes. C'est de chercher Dieu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux. Le texte que nous a fait lire Monsieur de Dieu est un texte que j'avais l'intention de prêcher. Vous avez failli me piquer la prédication, je vous le pardonne. Mais c'est un texte que moi que j'ai profondément médité, parce qu'il traite un sujet qui n'a fait que provoquer des divisions dans les églises. Et ça, ça fait pas rire. Et il est clair qu'il y a dans ce texte un verset qui nous prouve quand même que la question du voile est quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que si vous avez lu, il est écrit au verset 10 du chapitre 11 que vous avez lu tout à l'heure, il est écrit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges.
Donc c'est une valeur spirituelle, qui n'est pas donc culturelle, et propre à Corinthe. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ouais, c'est quelque chose qui est spirituel. Les anges, ça n'a rien à voir avec la culture de l'église de Corinthe. Vous me suivez? Mais le véritable enseignement de ce chapitre, c'est que la femme doit être soumise à son mari. Ça, c'est ce que Dieu voit dans le cœur de l'homme. Dieu voit si une femme, elle est soumise à son mari. Soumise, ça ne veut pas dire esclave pour ceux qui pourraient utiliser ce verset d'une manière différente. La soumission n'a rien à voir avec l'esclavage. La soumission, c'est surtout le fait de pouvoir bien aider également son mari. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais justement, il faudrait peut-être les dire. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ces anneaux et de ces barres et de ces petits détails que chacun doit prendre avec beaucoup de sérieux pour réintégrer la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, surtout dans l'Église. Le problème, ce n'est pas le voile. C'est vrai que moi, si j'étais une femme, sérieusement, si j'étais une femme, et si j'avais pas les cheveux longs, lorsque je prierais dans l'église, ou si je devais prophétiser, si j'avais les cheveux courts, je répète, je mettrais un voile. Parce que, à cause des anges. Mais pour prier, et pour prophétiser. Mais, je vous avoue quand même, que je préférerais avoir les cheveux courts et être soumise à mon mari. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le vrai enseignement, vous le lirez dans le chapitre, et l'homme doit être soumis à Christ, bien sûr. Et je vous avoue qu'une femme qui est soumise à un mari, qui aime sa femme comme Christ aime l'Église, je peux vous dire que l'intersoumission se fera avec beaucoup de douceur. Le problème, il faut que chacun s'occupe de son verset. Le problème, c'est qu'il faut prendre ces choses avec beaucoup de sérieux. C'est ça, les anneaux et les barres. Mais l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, dira, mais la chevelure a été donnée à la femme comme guise de voile. Mais il faut bien comprendre, frères et sœurs. Vous savez, moi je suis encore un genou. Hier, on m'a traité de genou. Je ne sais pas si vous rendez compte, M. Chrétien a eu le culot de me traiter de genou. Mais enfin, nous sommes expliqués. Demain, au champ du coq, l'affaire sera réglée. Mais moi qui suis encore jeune dans le ministère, je vous avoue, trêve de plaisanterie, je vous avoue que quand vous entrez dans le ministère, et je pense qu'il y a des jeunes qui vont rentrer dans le ministère, je vous avoue qu'il y a de quoi pleurer quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur et que vous voyez des anges déchirés à cause du port du voile. Si, moi je vous le dis, franchement, à cause des anges, si vous devez prophétiser, si vous avez les cheveux courts, moi je vous exhorte à mettre le voile, pour prophétiser ou pour prier. Mais la plus grande bénédiction, ce n'est pas dans l'attitude extérieure, c'est dans l'attitude de cœur. Ça c'est important, parce que Dieu regarde au cœur. Je peux quitter mon chapeau quand je prie, et les gens pourront dire, le frère, ça c'est clair. Lui, dans les détails, il pinaille pas, tu parles. Si j'ai pas de communion avec Dieu, si je n'aime pas ma femme, si je ne cherche pas à l'aimer de plus en plus, comme le Seigneur l'a demandé par l'apôtre, par les apôtres, que nous, les maris, nous devons aimer sa femme avec beaucoup de tendresse, l'aimer comme Christ a aimé l'Église. La barre, elle est quand même assez hautoyée. Eh bien, est-ce que nous ne devons pas arrêter de continuer à prendre nos femmes pour des servantes? Est-ce que vous ne croyez pas que ça fait partie des détails? Mais qui s'en fiche aujourd'hui des détails? Qui s'y intéresse? Eh bien, Dieu s'y intéresse. Voilà, le problème, il est là. Et quand Dieu donne une injonction pour les pécheurs, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, c'est parce que peut-être que vous vous amusez à ne pas chercher Dieu, peut-être vous faites comme Belshazzar qui pensait que parce qu'il était le roi, se croyait tout permis, et il a flirté avec le péché, il a flirté, il a fait le beau devant les gens, et il a commencé à faire des festins, à boire, et après il a, vous savez qu'un péché ça entraîne toujours un autre, et il a fait venir les coupes et les vases qui avaient été volés dans la maison de l'Éternel, et patatras. Qu'à un moment donné, tu interviens. Et une main écrit sur le mur de la chaux, sur le mur en chaux, pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Enfin, j'abrège et j'explique. Et pourtant, Daniel, qui devra prononcer sur lui la parole de Dieu, qui sera une parole de jugement, devra dire, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur. Toi qui savais ces choses. Il savait. Alors nous pourrions dire, mais comment c'est clair, un petit peu comme ça. Roi, il avait le prophète Daniel à portée de main dans son royaume, il n'a jamais fait venir cet homme, parce qu'il n'était pas intéressé par les choses de Dieu. Alors nous pourrions dire, mais moi si j'avais le prophète Daniel, je me chercherais vraiment à connaître. Mes frères, nous avons mieux que le prophète Daniel. Nous avons la parole de Dieu.
Et nous devons, mais chacun, c'est quelque chose de très sérieux, c'est quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de joie, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait avec, en étant traumatisé. Chercher Dieu, ce n'est pas traumatisant. Chercher Dieu, ce n'est pas pénible. C'est l'inverse qu'il est. Et là, nous voyons donc, voyez, on a parié un Corinthiens 11. Mais voyez, ça vaut la peine, dans le cadre du couple, de méditer ce chapitre ensemble. Et vous verrez que dans ce cadre-là, à cause des anges, à cause de la présence des anges, on ne fait pas gaffe, mais dans l'église, moi, je crois qu'il y a des anges. Vous le croyez? C'est pour ça qu'il fait chaud. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Vous qui n'avez pas pu prendre le pain et le vin ce matin, que faites-vous de cette parole du Seigneur? Cherchez l'Éternel. Peut-être, comme la prophétie le disait, peut-être que vous avez cherché qu'une bénédiction. Vous ne l'avez pas fait d'une manière mal intentionnée. Personne ne peut vous accabler. Peut-être que vous venez que pour entretenir cette conviction que vous êtes bien en communion avec Dieu parce que vous venez à l'église. Parce que des fois, on a dit, moi je vais à l'église, donc je suis plus spirituel que celui qui n'y va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas ça, chercher Dieu. Ne cherchez pas Dieu à Bethel. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis en communion avec Dieu. Ce n'est pas parce que je prêche l'évangile que je suis en communion avec Dieu. Un sermon, n'importe qui peut le faire. Pas vrai? C'est n'importe qui. Ne le cherchez pas dans telle ou telle façon de faire. Et David, avec beaucoup de sérieux, n'a pas tiré un trait en disant, mais si c'est ça, j'arrête. Il y a des détails. C'est écrit dans la Bible, les petits renards qui ravagent les vignes, les mouches qui infectent l'huile du parfumeur, les cheveux, la pizza, vous vous rappelez? Toutes ces petites choses. Celui qui est fidèle dans peu de choses. Nous voyons bien que le critère de Dieu, ce n'est pas les grandes choses. Dieu ne regarde pas ce qui éclabousse. Dieu regarde au cœur. Et il y a énormément de choses dans la Bible qui justement nous parlent de ces petites choses. Mes frères et sœurs, enlevez un peu de levain, fait lever toute la pâte. De toutes petites choses qu'on a peut-être négligées, je parlais de cette intersoumission dans le couple. C'est pas beau dans un couple, lorsqu'il y a cette intersoumission, ce dialogue, cette communication, et non pas, là bien sûr, là il y a longtemps qu'on a négligé les détails, quand chacun se replie sur son verset, et je me soumettrai à toi, quand tu m'aimeras comme Christ a aimé l'Église. Et moi je t'aimerai quand tu te soumettras, esclave, pardon chérie. Eh, voyez, on est là. Alors, riez. Bon, c'est vrai que vous pouvez rire parce que la façon dont je vous le dis, ça y prête. Mais vous avouerez. Et puis après, à la réunion de prière, Seigneur, convertis les Toulousains qui sont pervers et corrompus. Mais c'est sérieux. Mes frères, Dieu est capable de convaincre un pécheur. Dieu est capable de convaincre n'importe quelle âme. Et de l'amener à la croix, et qui se frappera la poitrine, et qui fera la paix avec Dieu. Ça, c'est le travail de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Ne vous occupez pas trop d'essayer de convaincre les gens. Occupons-nous de ne pas négliger des détails, de ne pas chercher Dieu d'une mauvaise manière, de ne pas faire les choses pour l'apparence de la piété, mais cherchons Dieu, mes frères et sœurs, de tout notre cœur. Mes bergers ont été stupides. Ça vous fait penser à qui? Ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pour ça que leurs troupeaux se dispersent. Mes frères et sœurs, moi le premier, je dois chercher Dieu. J'ai pas de méthode à chercher. Moi, j'ai pas de méthode. Quand je suis arrivé à Toulouse, la première personne m'a dit, Monsieur Hugo, qu'est-ce que vous avez comme méthode? Je dis, moi, j'ai pas de méthode. Qu'est-ce que vous voulez comme méthode? La méthode, c'est d'être sérieux avec la parole de Dieu.